La revue de presse à 8h31 sur Radio Classique. Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Dans les journaux ce matin, l'effet Dati continue. La nouvelle ministre de la Culture a annoncé hier sa candidature aux prochaines élections municipales à Paris.
Oui, le scrutin est pour 2026, mais avec Rachida Dati, c'est tout de suite. Rachida Dati lance la bataille des municipales à Paris, titre Le Figaro. Un pied au gouvernement, la tête à la mairie de Paris, résume Libération. Le Monde relève que mardi soir, Emmanuel Macron a affirmé n'avoir pas du tout parlé des municipales avec Rachida Dati, mais que celle-ci a dit le contraire aux élus de la droite parisienne. Elle leur a parlé d'un deal passé avec le chef de l'État. La ministre de la Culture est aussi en couverture du Point, avec ce titre qui évoque les jeux de cour de notre monarchie présidentielle. À quoi joue Macron ? Le roi s'amuse.
Et un autre hebdo, l'Express, raconte les coulisses d'une relation singulière et déjà ancienne entre Rachida Dati et le couple Macron.
Depuis 2017, l'ex-ministre sarkozyste se rend souvent à l'Élysée. Elle prétend déjeuner avec le président. D'après l'Express, ce n'est pas toujours vrai, mais pas toujours faux non plus. Emmanuel Macron se montre friand des bons mots et de la gouaille de Rachida Dati, et son attention est soutenue quand il s'agit d'écouter les histoires de cœur éphémères ou improbables du microcosme politico-médiatique. Mais lui et elle n'échangent pas que des potins. À l'automne 2022, Gérald Darmanin s'est entendu ordonner par le président « Il faut que tu vois Rachida Dati pour régler quelques dossiers ». L'article ne dit pas lesquels. En 2020, le président a même pressé Agnès Buzyn, qui menait la liste macroniste à Paris, de s'allier avec Rachida Dati. L'Express décrit aussi un lien étroit avec Brigitte Macron. Les deux femmes déjeunent, se racontent la vie, les expositions qu'elles ont vues. Et quand la fille de Rachida Dati a été victime de harcèlement scolaire, Brigitte Macron lui a recommandé un collège privé.
Un collège privé, donc. Autre magazine, autre portrait. L'Obs raconte les jeunes années de Gabriel Attal quand le Premier ministre militait au Parti Socialiste.
Oui, les vertes années du Premier ministre étaient roses et on sent bien que l'Obs aimerait le voir renouer ce fil à Matignon. À 17 ans, en 2006, Gabriel Attal s'enflamme pour Ségolène Royal, dont la modernité le séduit. C'est l'époque où le PS recrute de nouveaux bataillons avec une campagne d'adhésion à prix cassé, 20 euros la carte. À Sciences Po, Attal lorgne la tête de la section socialiste avec un programme concentré déjà sur la communication. Il sait se trouver au bon endroit. À 22 ans, il crève l'écran dans une émission de France 2 sur les jeunes et la politique. Il s'enrôle ensuite pour DSK, cette deuxième gauche pour qui l'entreprise n'est pas un gros mot et qui considère qu'il faut produire des richesses pour les redistribuer. C'est exactement ce que je retrouverai plus tard chez Macron, confie Gabriel Attal à l'Obs. C'est le portrait sympathique d'un ambitieux qui sait zigzaguer. La preuve, le jeu vidéo Mario Kart est une de ses spécialités.
Olivier Dussopt, l'ex-ministre du Travail, fera peut-être partie du gouvernement de Gabriel Attal. La justice l'a relaxé hier d'une accusation de favoritisme.
Relaxé, Olivier Dussopt veut toujours être utile au pays, titre Le Parisien, citant le communiqué de l'ancien et peut-être futur ministre. L'Opinion relève qu'après la mise hors de cause d'Éric Dupond-Moretti, la relaxe d'Olivier Dussopt donne raison à Emmanuel Macron, qui a expliqué mardi dit que la règle de la démission automatique pour un ministre mis en examen n'avait plus cours. On l'a vu aussi avec la nomination de Rachida Dati. Pour l'éditorialiste du journal, accusation ne saurait valoir condamnation, sauf à retirer toute raison d'être à la justice.
L'affaire avait commencé en 2020 par un article du site Mediapart.
Oui, et comme souvent, la justice avait instantanément pris le relais. Mediapart accusait Olivier Dussopt d'avoir reçu des œuvres d'art en échange d'un marché public accordé à une entreprise de gestion de l'eau. Enquête faite, il s'agissait de deux lithographies estimées au plus à 1000 euros chacune, ce qui fait quand même de l'argent. Mais sur la base de mails saisis dans l'ordinateur d'Olivier Dussopt, les juges lui ont ensuite reproché des arrangements frauduleux et le parquet national financier est allé jusqu'à réclamer une peine de prison. Rien de tout cela n'était vrai, a tranché le tribunal, ce qui n'empêche pas Mediapart, figurez-vous, d'écrire que le ministre est relaxé des faits de favoritisme. Eh bien non, ce n'était pas des faits, justement. Dans ses articles précédents, Mediapart titrait déjà sur la réalité des faits retenus contre le ministre, ou encore les documents gênants qui l'accablent, ou encore le document qui ruine sa défense. Tout cela sonne bien faux aujourd'hui, mais Mediapart s'est déjà lancé dans une autre campagne contre la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra.
Et à l'évocation de cette affaire, vous avez peut-être entendu le rire de Franz-Olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. On le retrouve dans quelques minutes. Libération publie un dossier sur le thème « Nos smartphones ont-ils tué la conversation ?» Peut-être y a-t-il un rapport avec ce qui précède.
En 20 ans, les portables se sont imposés comme des extensions de nos cerveaux et la prolifération des réseaux sociaux encourage les prises de position définitives au point de faire du débat une pratique à haut risque, écrit Libération. Aussi, l'anthropologue David Le Breton annonce-t-il la fin de la conversation au sens d'attention à l'autre, de disponibilité à sa parole, à son visage. Autrement dit, plus nos yeux sont rivés sur nos portables, moins nous y voyons clair. L'avocat Bertrand Perrier ajoute, les réseaux sociaux ont contaminé nos conversations en renforçant l'invective, le jugement à l'emporte-pièce et le ricanement. Libération souligne que les injonctions à prendre position depuis les attaques du Hamas du 7 octobre s'inscrivent dans ce mouvement. Le journal rappelle que, selon un rapport commandé par l'Union européenne à X, l'ex-réseau Twitter, la France est le pays d'Europe qui partage le plus de publications violentes, haineuses ou illicites. Comme les titres de Mediapart, voilà qui donne à réfléchir.
Merci Hervé Gattegno, ça donne effectivement à réfléchir, la France en tête des pays où on utilise les réseaux sociaux pour violenter, haïr, etc. Bravo.